Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall.
Ayant usurpé le droit d'aînesse d'Ésaü, Jacob est poursuivi par son frère qui lui en veut, d'autant plus qu'il a extorqué à son père par une supercherie organisée par sa mère, Rebecca, la bénédiction. Et il n'y en a qu'une, il n'y en a pas plusieurs, la bénédiction de l'héritier, et que devient donc Jacob. Il s'enfuit pour ne pas être assassiné par son frère. Vous savez, dans l'histoire de France ou dans de tous les pays, les questions d'assassinat, c'est quelque chose de récurrent. Et donc, il s'enfuit, il est seul, fugitif, comme on l'est toujours après une faute. Il s'apprête à quitter la terre promise pour aller chercher refuge dans la parenté d'Abraham, en haute Mésopotamie, là d'où venait justement Rebecca, qui avait été cherchée là-bas par le serviteur d'Abraham, Eliezer. Il passe la nuit sur les montagnes rocailleuses de Judée, à une vingtaine de kilomètres au nord de ce qui sera plus tard Jérusalem, la terre si marquée par des guerres et par des affrontements qui n'en finissent pas, comme nous le savons. Il couche à la belle étoile. Comme souvent, Dieu choisit le moment où l'homme est démuni pour se manifester à lui. Les souffrances qui représentent la suite naturelle de nos fautes sont pour Dieu des occasions privilégiées de se rappeler à notre souvenir. Il ne semble pas, contrairement à Abraham, que Jacob se soit beaucoup soucié de vivre étroitement près de Dieu. Il aime la paix de l'attente, mais le texte de la Genèse n'indique guère qu'il soit un homme de prière. Assurément, il a reçu la bénédiction qui le constitue héritier de la promesse. Isaac a même renouvelé sa bénédiction avant son départ pour Padan Aram, en haute Mésopotamie. Mais aucun lien personnel ne semble exister entre lui et Dieu. Or, Dieu lui-même intervient, comme aux origines du lien qu'il a tissé avec Abraham. Une nouvelle fois, il a une initiative, et cela face à un pauvre, démuni, fugitif. De façon toute gratuite, il révèle au trompeur en fuite tout l'intérêt qu'il lui inspire pourtant. Et le ciel s'ouvre pour le dormeur. Il aperçoit une sorte d'échelle qui va de la terre où il est jusqu'au ciel. Et des anges montent et descendent sur ces degrés, et Dieu se trouve à son sommet. À vrai dire, l'échelle dont nous parlons avec la tradition de notre histoire sainte ne correspond pas exactement au terme originel. Soulam, en hébreu, désigne non pas une échelle à barreaux, comme nous les connaissons, mais une sorte de plan incliné ou d'emmarchement obtenu par entassements successifs. Il s'agit d'un escalier sacré ou ziggourat, semblable à la tour de Babel. Au sommet de ces tours monumentales, dont il existe encore des vestiges en Mésopotamie, la chambre supérieure, au sommet de ces degrés, donc, symbolise la demeure de la divinité, tandis qu'en bas, sur le sol, se trouve le temple de l'apparition, et une longue rampe conduit de haut en bas ou de bas en haut. Et de telles tours, surtout dans les pays de plaine, parce que normalement la rencontre avec Dieu est sentie comme se passer au sommet des montagnes. Mais quand il n'y a pas de montagne, eh bien, il faut symboliser cette montée vers Dieu par une tour, qui symbolise donc le lien qui existe entre les temples de la terre et la demeure céleste de Dieu. Il n'est pas dit que Dieu lui-même descendait, mais bien que les psaumes disent, au moins deux occurrences dans les psaumes, où il est dit de « touche les montagnes et elles fumeront ». Donc Dieu descend, elle veut rencontrer l'homme, il touche les montagnes, ça fume, comme c'est le cas au Sinaï en particulier. Et donc on monte vers Dieu pour le rencontrer, sur les montagnes. Mais quand il n'y a pas de montagne, il faut des tours. Donc il n'est pas dit que Dieu lui-même descendait, ceux qui montent et descendent sont des anges de Dieu, littéralement des messagers de Elohim. La transcendance divine est ainsi sauvegardée. Ce sont les êtres divins de la cour céleste qui exécutent les volontés de Dieu et qui lui rapportent ce qui se passe sur la terre. Ce ne sont donc pas des êtres humains qui sont les usagers de l'escalier, mais des êtres de l'entourage divin qui remplissent le rôle de commissionnaire. Les anges ne sont pas les représentations caduques d'une théologie primitive. Nous les retrouvons tout au long de la Bible, exerçant leur fonction de messager et d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Notons qu'ils interviennent à tous les moments importants de la vie de Jésus. Lors de l'Annonciation, de la Nativité, les anges dans nos campagnes, enfin le gloire à Dieu au plus haut des cieux, une troupe innombrable, au moment de la tentation au désert, et de l'agonie à Gethsémani aussi, comme à la résurrection et à l'ascension. Donc toute la vie de Jésus est jalonnée par la présence des anges. L'Apocalypse, le dernier des livres de nos Bibles, décrit avec majesté l'exercice de l'activité médiatrice des anges. « Je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu, on leur remit sept trompettes. Un autre ange vint alors se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrit, avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or placé devant le trône. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières des saints. » Magnifique texte, chapitre 8e de l'Apocalypse. Les anges, en effet, transmettent donc les bienfaits de Dieu aux hommes, et parfois ses châtiments, et portent devant lui les prières des saints. De la sorte, il ne cesse de monter ou de descendre des degrés d'escalier qui fut montré à Jacob.